Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. Ravi de vous retrouver cette semaine. Vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque avec notre dossier consacré à l'Espagne et puis également sur notre site internet revueconflit.com, puisque Conflit, c'est aussi un magazine et pas uniquement les podcasts diffusés chaque semaine. Et puis pour Noël, vous pouvez aussi offrir un abonnement à Conflit. Vous retrouverez l'ensemble des offres sur le site internet de Conflit, un abonnement qui permet à la fois de soutenir la revue et puis de faire découvrir et connaître la géopolitique aux personnes à qui vous l'offrirez. Conflit ne vit que par ses lecteurs, que par ses abonnés. En vous abonnant, en acquérant également nos numéros, vous permettez à Conflit de se développer. Merci beaucoup pour votre fidélité. Alors, nous avons commencé il y a quelques semaines déjà un partenariat avec l'école de guerre Terre pour vous présenter l'école, la manière dont elle fonctionne, dont elle forme les officiers, son rôle aussi dans la structure de l'armée. Nous poursuivons avec aujourd'hui une émission dédiée aux jeux de guerre, les wargames. Nous allons voir comment ils sont utilisés à l'école pour la préparation des officiers, comment ils sont réalisés, comment ils sont conceptualisés. Et nous allons ainsi évoquer ces jeux pour mieux découvrir un aspect de la formation des officiers. Alors pour en parler, je reçois cette semaine le chef d'escadron Maxime. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu à notre micro. Alors vous êtes officier stagiaire de l'école de guerre Terre. Peut-être avant de partir directement dans le cœur du sujet, de présenter en quelques mots votre parcours, puisque vous avez à peu près une quinzaine d'années dans l'armée, depuis le début de l'école et puis la suite de vos engagements. Donc pour que nos auditeurs voient un petit peu quel est le parcours d'un officier avant d'entrer à l'école de guerre Terre, quelle est la ligne que vous avez suivie ou les différents engagements que vous avez pu avoir.
Donc bonjour, chef d'escadron Maxime, officier stagiaire à l'école de guerre Terre. Pour revenir sur mon parcours, effectivement, j'ai 15 ans de service. Je suis Saint-Cyrien. Après Saint-Cyr, j'ai choisi l'arme de l'artillerie, où je me suis spécialisé en défense solaire, défense anti-aérienne. Et j'ai servi en première partie de carrière de 2012 à 2020, donc pendant 8 ans, dans un régiment des forces, au 68e régiment d'artillerie d'Afrique, qui est à côté de Lyon. Donc j'étais chef de section, une trentaine de soldats, puis commandant unité avec une centaine de soldats sous mes ordres. Et ensuite, en 2020, j'ai entamé une seconde partie de carrière, où je suis arrivé à Paris, où j'ai servi en état-major, où j'ai préparé et réussi le concours de l'école de guerre, où je suis stagiaire depuis cet été. Donc durant ces 15 ans de service, hein, j'ai été projeté 5 fois, 2 fois en Guyane, une fois au Liban, une fois à Djibouti et une fois au Mali.
Ce qui montre d'ailleurs la multiplicité aussi des engagements français. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du Sahel ces dernières années, mais vous faites bien de souligner que l'armée française est aussi présente au Liban ou à d'autres endroits aussi, indépendamment de la projection en Afrique. Alors, vous êtes spécialisé ou tu as pris de passion pour les jeux de guerre. Alors, on a probablement tous joué à Risk, à Age of Empires. Donc, on voit un petit peu de quoi il s'agit quand on a des jeux de stratégie, des jeux de rôle, des jeux où il s'agit de déplacer des armées et puis de vaincre la partie adverse. Comme on va le voir dans ce que vous faites à l'école de guerre Terre, il y a une partie qui est un petit peu de ça, mais enfin, ça va aussi largement au-delà. Dans l'usage de ces jeux. Comment est venue l'arrivée de ces jeux de guerre? Quelle est un petit peu leur histoire? Comment est-ce qu'ils ont été utilisés? Ou quelle a été l'idée qui a fait qu'on a introduit ces jeux, si on peut dire, pour la formation des officiers?
Alors, je vais faire un peu de généalogie rapide du jeu de guerre, auquel on peut donner plusieurs noms. En français, jeu de guerre. En anglais, on dira wargame. Et en allemand, puisque c'est le terme le plus connu, ce sera Kriegsspiel. Donc, on remonte au début du 19e siècle où l'armée prussienne, après les guerres napoléoniennes, se prépare à un conflit sur le continent européen à travers la modélisation de combat. Donc, elle utilise cet outil pour former ses officiers dans sa propre école de guerre, et ce qui lui donne une supériorité tactique face aux Français en 1870, mais également aux Autrichiens en 1866, puisqu'elle ses officiers en fait sont habitués à réfléchir à un problème tactique et à le résoudre à travers la manœuvre de grandes unités. Ce que les Français, qui étaient sous le Second Empire très expérimentés d'un point de vue tactique, mais avec des petites unités, ne faisaient pas. Donc, voilà pour une généalogie rapide. Ensuite, l'outil se répand, est utilisé un peu dans l'armée française, mais ça ne prend pas vraiment. Chez les Allemands, c'est vraiment institutionnalisé. Chez les Américains, c'est beaucoup utilisé, hein. C'est l'exemple de la préparation à une guerre dans le Pacifique dans les années 30 par les officiers de marine, par les officiers de marine américains. Donc voilà pour une rapide généalogie. Pour le lecteur qui est intéressé pour aller plus loin, il y a un très bon livre, hein, d'Antoine Bourguillot, Jouer la guerre, histoire du wargame, qui est sorti en 2020. Et voilà, qui rebrosse de manière simple, hein, en 200 pages, cette histoire du wargame et comment les armées en sont venues à l'utiliser. Maintenant, c'est également quelque chose qui est passé en loisir dans le civil. Vous avez des éditeurs, hein, qui publient essentiellement américains, mais aussi quelques-uns allemands, quelques-uns en France, donc qui publient des jeux en français, qui éditent et conçoivent des jeux de guerre. Effectivement, par mon cheminement personnel, c'est par là que j'en suis arrivé. Alors, effectivement, Age of Empire, le vénérable Age of Empire, qui est le point de départ, je dirais, de cet intérêt. Et ensuite, moi, c'est un loisir à titre personnel. Et que dans le cadre de mon parcours professionnel en tant que militaire, voilà, je trouve très intéressant de faire converger les deux et de réfléchir comment est-ce qu'on peut utiliser pour la formation tactique. Et ce qu'on fait à l'école de Guerre-Terre, donc c'est très intéressant pour moi, à titre personnel, de pratiquer cet outil.
Dans les jeux qui sont utilisés, est-ce que ce sont à chaque fois des batailles historiques que l'on peut rejouer, Austerlitz, une bataille maritime, Midway, donc ce sont ou est-ce qu'il y a aussi des batailles qui n'auraient jamais existé, mais qu'on peut créer quasiment ex nihilo avec les plateaux et les pièces qui nous sont proposées?
Alors, à l'école de Guerre-Terre, il y a plusieurs jeux qui sont utilisés. Je vais rapidement les présenter. Le premier et le principal s'appelle Duel Tactique. Donc c'est la modélisation d'un affrontement de niveau brigade à division à l'époque contemporaine, en s'appuyant sur la doctrine de l'armée française, c'est-à-dire avec ses missions ou avec l'articulation des unités. Donc vous avez une carte. Un hexagone, chaque hexagone mesure à peu près 1 km, un tour c'est 4 heures, et sur la carte vous avez ces pions qui représentent un bataillon. Donc un bataillon, on va dire entre 500 et 1000 hommes, une brigade on peut monter jusqu'à 5 à 7 000 hommes, et la division entre 10 et 20 000 hommes. En fait, sur une carte, les pions, enfin, en ordre de grandeur, vous pouvez avoir l'équivalent entre 10 et 20 000 hommes sur la carte. Donc c'est un jeu qui se joue en équipe, en fait, en état-major, c'est-à-dire qu'il y a un état-major qui conçoit et conduit la manœuvre, et ensuite les exécutants autour de la table qui exécutent les ordres.
Donc il y a plusieurs joueurs et chaque joueur tient son grade, quelque sorte. Il y a celui qui dirige le bataillon, la brigade, enfin le...
Alors vous aurez un état-major de division sa tête un commandant de division, et ensuite il a sous ses ordres deux ou trois brigades. Et ensuite, ces deux ou trois commandants de brigade, eux font le déplacement de leur bataillon. Donc ça, c'est le premier et principal jeu qu'on utilise depuis le début de l'année, qu'on va continuer à utiliser dans la suite de la scolarité. Un autre qui est Pratzen, l'école de Guerre-Terre, donc a utilisé ce jeu de guerre pour un exercice la semaine dernière, à l'occasion de la commémoration de la bataille d'Austerlitz. Donc Pratzen, c'est une modélisation de la bataille d'Austerlitz, avec cette fois une centaine de participants qui sont répartis en plusieurs niveaux. Donc l'exercice Pradzen implique trois armées, l'armée française d'un côté, et ensuite du côté coalisé, les armées autrichiennes et russes. Un pion, c'est un régiment d'infanterie ou une batterie d'artillerie. Un tour, c'est 1 heure de jeu, et seuls les divisionnaires jouent. C'est-à-dire que vous avez des joueurs qui déplacent leur pion de régiment et font la résolution du combat, qui sont autour de la carte. Et ensuite, à l'étage du dessus, vous avez les états-majors de corps d'armée et ensuite l'état-major d'armée. Vous avez trois niveaux hiérarchiques, c'est pyramidal, hein, tout en haut, trois états-majors d'armée qui sont eux-mêmes divisés en plusieurs états-majors de corps d'armée, 4 et 6 selon les armées. Et ensuite, eux-mêmes ont deux ou trois divisions sous leurs ordres. Tous ces trois niveaux hiérarchiques sont physiquement séparés et il y a une communication par estafette, c'est-à-dire que des ordres sont écrits sur papier et portés physiquement entre chaque niveau hiérarchique.
Donc ils sont dans d'autres pièces et ils ne voient pas ce qui se passe dans la salle où on joue.
Exactement.
Et donc, d'abord pour les. Enfin, ça perturbe complètement la prise de décision. C'est-à-dire que y a du temps qui s'écoule. Les ordres qu'ils peuvent donner ne se correspondent pas forcément à ce qui est joué sur la carte FI.
Oui, exactement. C'est un point sur lequel on pourra revenir plus tard. Voilà, effectivement, il y a différents intérêts sur le jeu de guerre. Hein. Je pourrais les présenter après. Et le troisième jeu qu'on n'a pas encore utilisé, mais qui le sera dans l'année, mais qui donne aussi un autre exemple de ce pourquoi on peut utiliser le jeu de guerre, c'est Garigliano, qui porte sur ses combats de la campagne d'Italie durant la Seconde Guerre mondiale.
1944.
C'est ça. Et là, l'intérêt de celui-ci, c'est en fait, c'est une acculturation au terrain, aux enjeux opérationnels et à l'ordre de bataille. C'est-à-dire que dans le cadre de la scolarité, les officiers stagiaires de l'école de guerre vont sur le terrain en Italie pour étudier la bataille, sont directement sur le champ de bataille et pour bien comprendre les enjeux tactiques de l'époque et réfléchir à leur tour sur les problèmes tactiques auxquels étaient confrontés nos anciens. Mais en fait, avec ce jeu-là, l'objectif, c'est déjà d'avoir une idée. Vous avez déjà une idée du terrain, des unités, et vous avez déjà réfléchi un peu aux problèmes tactiques.
Donc vous faites le jeu avant d'aller sur le terrain en Italie.
Oui, c'est ça. On défriche le terrain avec ce jeu en le pratiquant. Donc voilà, ce sont les principaux jeux de guerre qui sont utilisés à l'école de guerre.
Alors merci pour cette présentation. Donc on voit qu'il y a différents jeux et puis vous avez bien présenté l'intérêt pour chacun. Peut-être on peut revenir sur Pradzen et notamment la manière dont c'est organisé. La question un peu de l'incertitude, du brouillard de la guerre aussi, le fait qu'il y ait des personnes dans des pièces différentes, vous l'avez dit, qu'il y a des communications par estafette, tout ça perturbe un petit peu le jeu, enfin, c'est-à-dire c'est volontaire, c'est pour donner le côté vraiment réel, entre ceux qui sont directement sur le plateau et qui voient exactement comment les pions se disposent, et puis ceux qui sont dans les pièces d'à côté qui donnent des ordres, mais il peut y avoir, d'ailleurs ce que vous avez présenté, il y a parfois un décalage. Parfois de plus en plus grand entre les ordres qui sont donnés et le jeu tel qu'il se pratique dans la pièce.
Parce que le jeu de guerre, hein, c'est fondamentalement un duel de volonté. Que ce soit en 1 contre 1, des équipes de 5 contre 5 ou de 50 contre 50, ça reste un duel de volonté avec, in fine, l'objectif de vaincre. Et ça met en œuvre cette dialectique des volontés par une double action permanente et modélise la friction. Dans le jeu de guerre, vous avez un facteur d'incertitude. Permanent, effectivement, on pourra développer l'exemple avec Pradzen. Donc, déjà, vous avez un facteur d'incertitude natif qui est la résolution des combats ou de certaines actions par un jet de dés. Alors, un autre nom qu'on peut donner au jet de dés, hein, c'est le générateur de cas non conformes. C'est-à-dire que ça peut représenter plein de choses, hein. Quelqu'un qui n'a pas compris un ordre, quelqu'un qui s'est perdu en allant sur l'itinéraire. Et donc l'idée du jeu de guerre, en fait, c'est de palper le brouillard de la guerre. Et donc, dans le cas de Prazen, collectivement, avec la centaine de stagiaires engagés dans l'exercice, effectivement, l'idée des estafettes, c'est de, quand vous communiquez directement, quand la personne qui donne les ordres n'a pas de visage sur le terrain, vous avez tout de suite beaucoup de biais qui rentrent en ligne de compte. Et c'est là que c'est très intéressant, parce que vous avez un décalage permanent entre la situation réelle sur la carte et la perception par les états-majors. Je donne un exemple, hein, sur l'exercice Pradzen, j'étais à la tête d'un corps d'armée, donc j'avais deux divisions sous mes ordres. Donc je communique avec eux par estafette. Et sur la situation des pertes dans mes deux divisions, à un moment, je reçois le compte-rendu, un régiment a été détruit. Bon, très bien, c'est noté. Un moment plus tard, je passe dans l'état-major de l'armée, donc le niveau supérieur, je vois dans l'état des pertes concernant mon corps d'armée, je vois deux régiments détruits. Je n'ai aucune idée de comment ils ont eu ce compte-rendu. À la fin de la partie, je descends, je vais voir la carte, et en fait, je me rends compte que je n'ai aucun régiment détruit, seulement une batterie d'artillerie, et mon infanterie n'a subi que des pertes légères. Donc en fait, on voit qu'entre les trois niveaux, il y a un décalage complet. En fait, j'ai aucune idée de la manière dont c'est arrivé. Alors, si je pense qu'il y a eu un. Je pense qu'il y a une incompréhension, justement, parce que les estafettes sont un intermédiaire qui peut, dans le feu de l'action, mal comprendre un compte-rendu, ou mal comprendre un ordre, ou peut-être ai-je mal compris. Enfin, ouais, il y a plein de choses possibles, et on ne le saura jamais. Donc, c'est un exemple, effectivement, de modélisation de la friction.
Et alors, si je reste sur ce cas-là, donc vous pensez qu'il y a des pertes assez importantes, que vous avez perdu deux divisions et
De régime.
deux régiments, pardon. Oui, ça aurait été beaucoup, deux divisions, donc deux régiments. Et simplement, ceux qui sont dans la pièce sur le plateau voient bien que les pertes sont moindres. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent. Il faut qu'ils poursuivent la bataille, mais avec davantage d'hommes que ce que vous pensez qu'il y a. Donc, ils doivent aussi s'adapter par rapport à cet aspect-là.
Alors c'est là qu'il y a un aspect intéressant, qui est, et on revient à cette histoire de duel de volonté, c'est l'intention du chef dans la planification en amont du combat. Et ce que je vous dis, c'est valable pour Pradzen comme jeu de guerre, pour duel tactique également comme wargame, mais en fait ça vaut aussi pour une manœuvre en réel sur le terrain, l'intention du chef. Et si les subordonnés l'ont bien en tête et que à un moment, ils ne reçoivent pas les ordres, ou ils le comprennent mal, il y a toujours cette intention sur laquelle se raccrocher. Et c'est là qu'il y a une souplesse à avoir sur également, eux ont une vision sur le terrain, donc peuvent prendre des initiatives.
C'est qu'ils ont une marge de liberté. Enfin, vous faites bien souligner la notion d'intention, c'est-à-dire qu'ils reçoivent un ordre qu'ils ne peuvent pas appliquer dans sa totalité, puisque entre ce que vous pensez qu'il y a comme unité sur le terrain et ce qu'il y a réellement, il y a un décalage. Et donc, effectivement, ils doivent garder la notion d'intention, c'est-à-dire quelle est l'affinité de l'ordre qu'on nous a donné, et à partir de là, l'adapter par rapport aux effectifs dont on dispose réellement.
Oui, c'est ça. Donc là, et c'est là que c'est intéressant aussi, c'est que ça permet de réfléchir, ok, sur comment est-ce que je veux, quelle marge d'initiative je donne à mes subordonnés. Est-ce que je les tiens à reine courte et en fait toute initiative en fait doit être validée au niveau du chef, ou est-ce que je leur laisse une marge d'initiative plus importante parce que je considère que ce sont eux qui ont les yeux sur le terrain et qu'ils auront cette vision que moi je n'ai pas. Et c'est là que c'est intéressant, en tout cas dans le cas de l'exercice Pradzen, c'est ils prennent l'initiative, j'apprends qu'eux ont pris cette initiative, qu'est-ce que le chef fait? Est-ce que il tente de reprendre la main sur la manœuvre, parce qu'il à tout prix, vraiment, il est en tête, il veut à tout prix contrôler la manœuvre de ses unités, ou est-ce que, ok, il s'adapte à la situation et il accompagne cette prise d'initiative de ses subordonnés mais en l'orientant dans sa propre intention et également dans l'intention de son chef. Au-dessus de, dans le cas de Pradzen, hein, au-dessus de moi, j'avais un général de, j'étais général de corps d'armée. Au-dessus de moi, j'avais un état-major d'armée qui avec un commandant qui m'a donné son intention. Donc voilà, c'est dans le cas de Pradzen, c'est ça qui est très intéressant. C'est vous mettez une centaine de personnes et tout de suite on palpe le brouillard de la guerre. Là, je donnais un exemple personnel, mais mes camarades ont chacun des exemples si similaires.
Donc en fait, ce que vous montrez, c'est que dans une bataille, il y a évidemment la question du matériel, des hommes, de l'adversaire, mais il y a cette colonne vertébrale du commandement et des chaînes du commandement qui est essentielle et qui fait que la bataille peut se développer, peut réussir ou échouer.
Oui, l'idée, c'est il y a une certaine inertie dans la manœuvre. Tout ne se fait pas au claquement de doigts de manière omnisciente. C'est-à-dire, je reprends l'exemple de Age of Empires, j'ai mes unités, je clique, elles tombent tout de suite à droite. Là, on n'est absolument pas dans ce cadre-là. Et c'est ce qui est intéressant dans le wargame, en fait, c'est que vous pouvez, là je reviens sur le wargame en général, c'est que vous pouvez modéliser ça, mais de manière peu coûteuse. Vous modélisez un affrontement guerrier, vous l'encadrez par un système de règles, plus ou moins complexes, et derrière, vous avez un outil qui vous permet de recréer une manœuvre. Et donc, c'est-à-dire que avec cet outil, qui est un outil supplémentaire dans la boîte, enfin moi dans ce que j'appelle une boîte à outils de tactique, c'est un outil supplémentaire, c'est un complément et un prolongement de tous les autres outils, d'une manœuvre réelle sur le terrain, dans la forêt, il pleut et on a ses véhicules, mais c'est un outil peu coûteux. En fait, en une journée, avec des cartes et des pions, vous pouvez planifier et une conjoint de manœuvre qui, en temps normal, prendrait plusieurs jours, plusieurs semaines, et mobiliser une masse d'hommes et de matériel. C'est là qu'il faut avoir en tête une limite droite et une limite gauche. La limite droite, on n'est pas non plus dans le risque, hein, qui reste lui, un jeu de société très, très basique. Dans les jeux de guerre employés à l'école de Guerter, il y a quand même un niveau de complexité qui est différent, surtout dans le cas de Gel Tactique, qui lui colle à la doctrine de l'armée française. Mais le wargame n'est pas non plus une formule miracle. C'est-à-dire qu'on ne va pas du jour au lendemain, on arrête toute notre préparation opérationnelle et on ne fait que du wargame. C'est, quand on a ces deux limites en tête, c'est un outil qu'on peut exploiter. Et c'est ce que fait l'école de Guerter. L'exemple de Pradzen la semaine dernière, donc un exercice qui est annuel, mais étalé sur l'année, c'est avec l'emploi de Gel Tactique.
Et par rapport à votre expérience lors de vos différentes opérations où vous avez été déployé, est-ce que vous avez pu percevoir dans la, je pense, ces questions de commandement ou de chaîne de commandement, ce que vous voyez dans les wargames, est-ce que c'est des choses que vous avez pu voir quand vous étiez en opération, et avec le recul aussi, est-ce que vous voyez des choses que vous pouvez apprendre quand vous étiez par exemple au Liban ou ailleurs de ces jeux de guerre?
Alors, tout à l'heure, je parlais de l'incompréhension d'un ordre par un subordonné. Effectivement, c'est quelque chose qui en manœuvre ou en opération peut arriver. Hein. Une fois en manœuvre, j'ai eu un avec ma section, on se déplaçait, on devait faire un bond de 10 km vers l'ouest. J'ai un de mes chefs de pièce qui lui a compris vers l'est.
Oui, d'accord. Donc il parlait de l'autre côté.
Donc je parlais tout à l'heure du dé. Bah, en fait, vous, dans le wargame, vous jetez un dé qui fait échouer une action. Et en fait, ça peut. Vous pouvez. Le dé est une abstraction qui modélise ce genre d'incompréhension, mais qui arrive en réel. Et donc l'objectif hein, à l'école de Guerter, c'est aussi à bas coût, avec je vous dis, un outil, c'est une carte et des pions sur une table, ça prend une journée, de se familiariser, enfin, les camarades le sont déjà, hein, tout le monde a été en opération, mais de continuer à l'être, mais à un niveau supérieur. À l'école de Guerter, nous sommes là pour nous former à des opérations aéroterrestres, c'est-à-dire du niveau brigade, division, corps d'armée. Et donc, à ce titre, le jeu de guerre est un outil qui permet de... Cette fois, c'est pas trois soldats dans son véhicule tout seul. Hein, à la limite, c'est juste un camion qui s'est perdu. Cette fois, c'est une incompréhension d'un subordonné. Donc, c'est pas quatre soldats dans un véhicule. C'est potentiellement un bataillon complet avec 800 soldats qui n'a pas compris la mission. Et avec un jeu comme je veux dire comme Gel Tactique, qui lui modélise un affrontement avec doctrine, mission et unité de l'armée française, on reste bien dans ce cadre qui est le nôtre, qui est celui de l'armée de terre. Ce qui est intéressant dans Pradzen, c'est pas de recréer une bataille napoléonienne. C'est pas l'aspect purement historique. C'est cette compréhension à grande échelle. Mais notre cœur de métier à l'École des Artères, c'est quand même la formation à manier une brigade, à manœuvrer une brigade ou une division composée d'unités françaises.
Pas de duel tactique donc qui est issu de la doctrine militaire française. Est-ce que c'est uniquement pour l'armée de terre ou est-ce qu'il y a un aspect interarmes où vous êtes coordonné également avec l'armée de l'air et la marine?
Alors, celui-ci est un jeu purement armée de terre. C'est-à-dire que c'est une manœuvre aéroterrestre où l'aspect aérien est modélisé. Vous pouvez avoir des hélicoptères. Mais non, ça reste purement armée de terre. En fait, c'est un point intéressant que vous soulevez parce que c'est les questions d'échelle. Les échelles pour un marin et un aviateur ou un terrien ne sont absolument pas les mêmes. Pour le terrien, nos plans de manœuvre, ça va être des bataillons ou des articulés en brigade sur un espace par exemple, de 20 km de front et 40 km de profondeur. Et vous faites une manœuvre sur 36 heures. Le marin, son plan de manœuvre, c'est un bateau dans l'immensité de la mer. L'aviateur, ce sont ses avions avec des vitesses qui sont absolument pas les mêmes. Donc il y a des échelles différentes et c'est là où il y a des choses intéressantes, mais ça c'est plus l'école de guerre, donc la deuxième année où là des choses se montrent. À l'école de Guertard, nous on est vraiment centré sur la manœuvre aéro-terrestre, pour l'emploi tactique.
Et comment est-ce que, si je reprends le duel tactique, comment est-ce que le jeu a été conçu? C'est-à-dire qu'il y a un groupe à l'armée de terre qui a pensé ce jeu, qui l'a réalisé, parce qu'il a fallu assembler les aspects tactiques, stratégiques, ça.
Alors il a été conçu à l'école de Guertard, hein, il y a plus de 3 ans, par une promotion où vous avez toujours des gens qui sont
Férus.
férus, hein, et donc quand vous le décelez, voilà, vous avez quelqu'un qui a déjà une connaissance de système de règles, une familiarité avec le wargame, et quand c'est un militaire, il est aussi familiarisé avec la doctrine. Donc c'est né comme ça. Pradzen est né comme ça, hein, il y a quelques années. Et donc duel tactique, c'est la rencontre entre des gens comme ça, de l'encadrement et parmi les stagiaires. Et donc, je l'ai cité tout à l'heure, Antoine Bourguillot, qui à l'origine est enseignant, mais est devenu ensuite officier de réserve à l'école de Guertaire, dédié à la montée en puissance du wargame et tient maintenant la cellule de jeu de guerre de l'armée de terre. Donc il y a cette rencontre entre des gens qui savent comment concevoir un jeu et des gens qui savent comment manœuvrer des unités. Et donc vous mettez ça ensemble et vous avez la conception d'un wargame. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est que un jeu de guerre, c'est une modélisation. C'est-à-dire que vous faites des choix en fonction de plusieurs critères. Dans le cas d'une utilisation professionnelle, comme c'est le cas à l'école de Guertaire, c'est l'audience, c'est-à-dire les joueurs, et la finalité de ce jeu. La finalité, ça reste bien planifier et conduire une manœuvre. Mais également l'audience, vous avez un public qui globalement est néophyte. Vous avez quelques gens qui ont pu jouer, des gens qui ont pu jouer à Mémoire 44, à Risk, ou du Warhammer, hein, c'est aussi une forme de jeu de guerre, mais qui ne sont pas acculturés au wargame et qui ne sont pas nécessairement convaincus par sa pertinence. Donc vous avez des gens qui
Réticence un peu, ou
ne sont pas familiers,
dubitatif.
ouais, pas familiers voire effectivement dubitatifs. Donc dans cette modélisation, ce qui est le point important, c'est d'avoir une courbe d'apprentissage qui est adaptée à cette audience. Et c'est là où le Wargame est un outil intéressant, c'est que c'est un outil qui est souple. Vous avez le matériel de base, une carte des pions, je reprends la tactique, hein, c'est une carte et des pions. Vous avez des règles écrites, mais qui peuvent évoluer. Contrairement à un jeu informatique, vous n'avez pas de ligne de code à faire, à reprogrammer, pas de patch à faire. En fait, quand une partie est jouée, une partie, hein, enfin une session, se jouera en trois parties, en trois phases. Vous avez la phase de planification, le déroulement, le jeu même, ensuite. Donc ça, c'est première phase, planification. Deuxième phase, le jeu. Et troisième phase, l'analyse après action, qu'on appelle 3 alpha. Et tout ça est encadré par un arbitre. Dans l'école de Guerter, hein, des stagiaires sont référents Wargame et arbitrent les parties et sont chargés de. S'il y a un point qui mérite d'évoluer en direct, l'arbitre peut dire ok, on fait évoluer la règle dans ce sens-là en temps réel. Et c'est là aussi où le jeu de guerre est intéressant, parce que tout à l'heure j'évoquais le jeu de guerre comme duel de volonté. C'est aussi un très bon outil comme support de la réflexion tactique. En fait, vous mettez autour de la table 10 officiers stagiaires de l'école Guerter, des fantassins, des cavaliers, des artilleurs, des transmetteurs, des sapeurs, des gens de la logistique, de le train et le matériel. Vous les faites jouer et vous avez 10 cerveaux différents et 10 points de vue différents. Et c'est là que c'est très intéressant, parce qu'en fait, vous avez un échange interarme. Chacun va nourrir la discussion. En fait, on parle de tactique. Effectivement, on est autour de la table. Ça suscite la discussion. Donc, on se retrouve à avoir un échange interarme entre joueurs qui accroît la connaissance et la compréhension de tel point de doctrine ou de la nature ou les effets de telle ou telle capacité. Un exemple, hein, la logistique, l'officier du train qui est spécialisé dans le ravitaillement des unités, il va dire il faudrait mieux le modéliser comme ceci autour de la table. Les gens écoutent, donc ça infuse, et l'arbitre lui peut décider ok, on fait évoluer et par rapport à ce qu'a dit le logisticien, on ajuste la partie. Vous avez un outil qui est peu coûteux, évolutif en temps réel, et qui s'efforce d'avoir une courbe d'apprentissage adaptée à son audience.
Alors, dernière question au sujet de ces jeux de guerre. Comment est-ce que vous voyez leur évolution possible, notamment pour la question du cyber, par exemple, des attaques cyber ou de ce qui est un petit peu informel ou immatériel, comment est-ce qu'on peut les introduire dans un plateau où là, il y a du matériel, il y a des pions, est-ce que c'est un élément qu'on arrive à prendre en considération également?
Alors, je vais revenir sur duel tactique, hein, mais c'est notre principal outil. Quand on joue au niveau de la division, la division produit des effets sur... façonner, modeler l'adversaire qui va arriver à la rencontre des brigades, qui vont être sur la ligne des contacts. Donc la division produit des effets dans la profondeur. Le choix dans le duel tactique pour modéliser ces effets, donc effectivement il peut y avoir de la guerre électronique, du cyber, des frappes dans la profondeur, hein, dans la longue distance, c'est quelque chose d'assez simple. C'est pendant la phase de planification, celui qui commande la division a en main des cartes, et parmi ces cartes, il doit faire un choix entre 8 cartes et qui produisent des effets. Évidemment, tous ces effets sont intéressants, mais vous ne pouvez pas tout choisir. Et donc, certains modélisent des effets guerre électronique. Alors, c'est un choix. On peut trouver plein de procédés. Mais ce choix-là permet d'adapter à la courbe d'apprentissage. C'est assez rapide et à comprendre. De choisir une carte et ensuite d'appliquer des effets qui pourraient être ceux du cyber. À l'inverse, on pourrait effectivement être beaucoup plus détaillé, avoir des. Mais vous rajoutez une page de règles. Et si on fait une page de règles pour chaque point qui mériterait détaillé, on expose la courbe d'apprentissage. Dans le civil, il y a des jeux qui font ça, hein, qui sont très bien, sauf que c'est 60 pages de règles. En plus, généralement, c'est en anglais, donc il y a cet aspect-là. Et normalement, il faut du temps, ce qu'on n'a pas forcément à l'école de Guerter.
C'est comme tous les jeux, si la règle est à la taille d'un code civil, ça devient plus compliqué effectivement à appliquer.
Exactement, l'idée du Wargame à l'école de Guerter, c'est vous avez une phase d'initiation, et ensuite la phase suivante, en une journée, les gens déroulent leur partie.
Merci beaucoup d'être venu au micro de Conflit pour nous présenter cet aspect. C'est un des aspects évidemment de la formation à l'école de Guerter. C'est loin d'être la seule, mais ça permet aussi de mieux comprendre ces jeux de guerre dont on parle beaucoup depuis quelques années, de voir leur usage concret, la manière dont ils fonctionnent. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission.
The third and 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 the third and